On n'est jamais dans une logique court-termiste de se dire on veut absolument avoir tant d'engagement, tant d'implication sur trois postes, mais on est vraiment dans une logique de construction long terme de la relation.
Bonjour et bienvenue au show Minter Dialogue, épisode numéro 97. Cet entretien est avec Bina Paradin Migoto, qui est entrepreneur culinaire et a lancé son startup Bindi il y a 5 ans. Bindi est une entreprise innovante de l'alimentation végétale et bio, qui a comme mission d'aider les consommateurs à mieux se nourrir au quotidien avec des produits sains, pratiques, végétariens et gourmands. Bina a écrit 3 livres, dont Inde intime et gourmande, qui a été cerné le prix du meilleur livre culinaire du monde en 2009. Elle a collaboré avec des chefs étoilés tels que Alain Ducasse et Olivier Rollinger. Dans cette discussion avec Bina, nous discutons de l'aventure entrepreneuriale de Bindi, les clés de réussite, comment gérer au mieux les médias sociaux et sa présence personnelle en ligne, ainsi que les enjeux pour l'avenir. Bonjour et bienvenue sur mon podcast Minter Dialogue en français, où on parle des marques, des nouvelles technologies et comment les entreprises doivent s'adapter à la transformation digitale. Je suis Minter Dial, votre compère pour ce podcast. Vous pourrez trouver les show notes sur mon site minterdial.fr, où vous aurez tous les liens et références cités lors de cet entretien. Plongeons alors dans cette nouvelle émission. Hello et bienvenue au show Minter Dialogue. J'ai le plaisir d'avoir une amie que je connais. Enfin, de combien de temps on se connaît, Bina? Qui est entrepreneur, qui a un background mixte et qui fait de la nourriture que ma femme, Yandy, adore. Donc, beaucoup de raisons de vouloir t'avoir sur mon show, Bina. Comment tu te présentes?
Bonjour, je suis Bina Paradin Migoto, je suis la fondatrice de Bindi. Chez Bindi, notre mission, c'est vraiment de rendre accessible une alimentation savoureuse, joyeuse et saine à grande échelle. Et aujourd'hui, on répond à l'attente des gens qui veulent manger moins de viande, moins de poisson, en leur proposant des solutions pour faire des repas flexitariens.
Alors derrière ce côté non carnivore et tout le reste, il y a évidemment un fond racine indienne. Explique-nous comment t'es arrivé à mettre en place cette combinaison délicieuse qu'on adore et quelle est l'histoire derrière Bindi?
L'histoire derrière Bindi, c'est vraiment l'histoire d'une passion que j'ai depuis que je suis toute petite pour l'alimentation dans sa globalité, aussi bien la cuisine, puisque j'ai eu la chance d'être dans une famille où les femmes cuisinent divinement bien et je pensais que c'était la normalité, que c'était le cas partout en général. J'ai un fort intérêt pour la façon dont les choses poussent et puis je m'intéresse beaucoup à l'aspect nutritionnel parce que je pense que fondamentalement ce qu'on mange constitue chaque cellule de notre corps et que donc du coup il est très important de savoir la qualité de ce qu'on mange et d'y faire attention.
Alors pour avoir passé beaucoup de temps en France, à Paris en particulier, il y a ces marchés, il y a une vraie discussion qui se passe entre les clients et le boucher, le client et le fromager, comment faire les recettes et tout le reste, donc il y a une vraie culture ici. Et tu as quand même écrit plusieurs livres, 4 livres, quelque chose.
3 livres.
3 livres, pardon. Et donc, tu es quelqu'un de connu sur la place. Et tout de même, je me demande combien c'est. Enfin, pour moi, en tout cas, je peux parler pour moi, ça serait très difficile d'imaginer de lancer de la nourriture en France, le pays du fromage, le pays de plein de choses. Comment est-ce que tu as apprivoisé ou t'es lancé par rapport à tout ça?
Alors justement, je n'ai pas lancé une marque de fromage parce que je pense que c'est déjà très largement et très bien fait par les Français. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est toutes les évolutions qu'il y a sur la nourriture. Et je pense aussi qu'en France, on a une très grande alimentation en termes de qualité quand il s'agit de haut de gamme, de gastronomie. On a des restaurants formidables. Mais par contre, je trouve sans vouloir provoquer, que l'alimentation quotidienne est parfois beaucoup plus contestable. Je rappelle que la France est quand même le deuxième pays de McDonald's, ce qui veut dire que au quotidien, les gens ne mangent pas forcément des choses bonnes, saines. Et moi, c'est cette alimentation du quotidien que j'ai envie de changer.
Et étonnamment, j'entendais une chaîne radio dire que la France est également le deuxième pays au monde du pizza, derrière les États-Unis. Donc, en effet, pas la bonne. Donc, ça fait 5 ans que vous existez, si je ne me trompe pas. Quel est le client, la cliente, enfin, quelles sont les typologies de clients que vous avez chez Bindi?
Alors, on a plusieurs types de clients et qui ont des motivations assez différentes pour venir acheter et manger des produits Bindi. Donc, parmi nos mangeurs, on a des clients assez jeunes qui sont très motivés par l'aspect écologique, puisque manger moins de viande, moins de poisson, c'est la contribution sans doute la plus simple qu'on peut faire aujourd'hui à l'écologie, puisque l'élevage industriel est le premier facteur de pollution sur Terre. Donc à chaque fois qu'on enlève un peu de viande ou un peu de poisson de son assiette, on a une contribution directe. Et ces jeunes clients sont vraiment motivés par la dimension environnementale. Après, on a pas mal de familles qui viennent plutôt dans la logique de dire on va trouver ensemble, en famille, une alimentation saine, simple aussi, puisque nous on propose des produits qui sont très faciles à mettre en œuvre, dans lesquels il y a juste de l'eau à rajouter. Et après, on a des clients qui sont plutôt cinquantenaires et qui viennent pour des motivations plutôt santé, puisqu'on propose une alimentation très saine, à base de végétaux, sans aucun produit chimique. Donc, il n'y a pas dans nos produits, pas d'exhausteur de goût, pas de conservateur, pas de colorant, etc. Et donc, ça contribue vraiment à pouvoir trouver facilement une alimentation santé tout en restant gourmande.
Pour la fourniture donc, de tes objets, enfin la nourriture, comment et combien tu dois vérifier les usages des engrais, enfin tout ce qui est écolo derrière ça? Comment tu fais? Est-ce qu'il y a une transparence là-dessus? Est-ce qu'il y a des standards, tu trouves, qui te permettent de faire confiance dans ce qui se dit de ce que tu achètes?
Alors, on a effectivement une démarche très transparente et par ailleurs, on se conforme aux standards bio puisque tous nos produits sont bio. Donc, on suit tous les éléments du cahier des charges bio et par acquis de conscience, on va aussi très régulièrement contrôler les ingrédients qui arrivent chez nous. Donc, en bio, les ingrédients arrivent labellisés bio, donc ils sont censés tous être sans pesticides. Mais on ne vit pas dans un monde parfait où tout serait sous cloche et quand on produit en bio, il n'y a jamais de contamination. Donc, nous, on vérifie de façon régulière s'il y a des contaminations ou pas. Donc, on essaie de faire au mieux notre travail de contrôle pour garantir à nos mangeurs d'avoir effectivement des produits propres et sans pesticides.
Donc, vous avez un site internet, vous avez un shop Bindi. Quelle est la typologie des clients qui achètent davantage sur l'e-commerce? Est-ce que c'est tout le monde ou est-ce qu'il y a quelque chose qui ressort des gens qui viennent plutôt acheter en e-commerce par rapport au magasin où vous avez les gourmets magasins qui détiennent vos aliments?
On voit plusieurs typologies de clients. Je pense qu'il y a des gens qui aiment particulièrement une recette, parce qu'on a souvent des paniers avec X fois la même recette, et j'imagine qu'ils ne trouvent pas cette recette dans leur magasin, et que donc c'est pour ça qu'ils commandent en ligne. Et après, on constate qu'on a aussi beaucoup de clients qui, tout simplement, sont dans un endroit qui n'est pas près d'un des magasins qui distribuent nos produits, et que là, on comble un vide géographique.
Donc, il est certain que le mode de l'écologie, c'est quelque chose qu'on voit partout le monde. Souvent, on dit que c'est les jeunes qui poussent cette notion, les écolos, etc. Mais souvent, on dit aussi que les produits écolos sont plus chers. Comment est-ce que les jeunes arrivent à jongler ces deux envies?
Je pense qu'avoir une consommation plus écologique, c'est aussi changer ce qu'on achète. Donc si on prend juste le cas de l'assiette, on va par exemple typiquement manger moins de viande, moins de poisson, qui sont les ingrédients qui sont très chers dans l'assiette, et qu'on peut faire un très bon repas avec des ingrédients de qualité, bio, délicieux,
et bon pour la santé,
tout à fait. Nous, notre promesse avec nos produits Bindi, c'est que pour moins de 2 euros par personne, on peut faire un repas complet en rajoutant ces légumes de saison dans notre préparation. Donc, on a vraiment un repas qui est très, très, très accessible, puisqu'en moyenne, un repas en France, c'est 3 euros quand on achète ces ingrédients en supermarché. Donc, on a cette proposition de valeur, de pouvoir faire mieux et un peu moins cher que ce qu'on fait d'habitude. Et après, pour pouvoir avoir cette approche plus écologique aussi, aujourd'hui, je pense que beaucoup de jeunes se tournent vers des systèmes de partage. Je pense à tout ce qui est partage d'appartements, partage de transport, co-sharing, partage de transport, partage voilà, de moyens qu'on n'achète plus. On n'achète plus une voiture pour soi tout seul, mais on va utiliser la voiture de quelqu'un sur un trajet qui nous intéresse. Et ça, je pense que c'est une bonne façon de réduire à la fois son impact environnemental et son budget consacré au transport, et donc finalement de pouvoir consommer de façon plus responsable dans le même budget.
Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que on parle beaucoup de la recherche d'expérience, plus dans le discours des jeunes, que la consommation d'un objet. L'idée de l'achat doit être liée à une expérience, une émotion. Et donc, il y a peu de choses plus émotionnelles que le repas partagé et ce moment ensemble. Et donc, tu disais qu'avant de commencer l'enregistrement, que les jeunes aujourd'hui sont plus à même de vouloir dépenser sur le budget alimentation, puisqu'ils se sentent... Ouais, ils ont plus de budget parce qu'ils économisent ailleurs pour pouvoir être ensemble. Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens vraiment partout en France ? Raconte-nous.
Moi, j'ai le sentiment, en tout cas, ce qu'on voit quand on discute avec nos mangeurs, c'est que effectivement, beaucoup de jeunes mangeurs vont partager des repas ensemble, et en particulier en dehors de chez eux, à travers aussi bien la restauration que des systèmes de produits à emporter, etc., que c'est une nouvelle façon de consommer qui est en rupture, en changement par rapport à ce qu'on a pu voir dans les générations précédentes, où on avait des repas quand on était jeune très 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 simple, on va dire. L'assiette de pâtes de l'étudiant, j'ai l'impression qu'elle a tendance à disparaître.
Alors, vous avez une mission chez Bindi, qui est une notion de formation sur la bonne nourriture, d'avoir un plat abordable, mais tout aussi savoureux et sain. Combien est-ce que cette mission est quelque chose qui est important pour les employés? Vous avez peut-être 25 personnes qui travaillent chez vous. Et dans la transmission aux clients, parce qu'en fait, on a peu de temps pour écouter le blabla du fournisseur, souvent. Mais est-ce que c'est quelque chose que tu arrives à faire percer et faire vivre parmi tes employés et tes clients, enfin, et la distribution?
Oui, en fait, c'est vraiment un point crucial chez nos employés. On a vraiment fait l'effort il y a 2-3 ans à la fois de formaliser nos missions, mais aussi nos valeurs, nos principes d'action. Et finalement, c'est quelque chose que tout le monde partage et qui est vraiment clé, je trouve, dans l'intérêt des gens pour venir chez Bindi. Et je pense que c'est assez essentiel d'avoir cette partie-là très claire, parce que sinon, avec la croissance, il y a toujours ce dilemme de recruter des gens qui ont une super compétence technique, mais qui finalement ne partagent pas du tout cette mission de vouloir avoir une alimentation plus joyeuse, plus saine, toujours savoureuse. Et je pense que ça serait une erreur d'avoir des gens qui n'ont que des compétences techniques très bonnes, mais qui n'ont aucun intérêt pour la mission et qui la feraient de façon un peu mécanique. Dans mon constat, ce n'est pas quelque chose qui marche.
C'est une discussion que j'ai eue avec une femme qui est dans les RH et recrutement des gens, qui s'appelle Your Todd, Gaëlle Montaillé, et elle parlait justement que véritablement aujourd'hui, le succès va passer par l'attitude plus que par les compétences. Il faut être bonne, mais la compétence, on peut l'apprendre. L'attitude, on ne peut pas.
Exactement. Je pense que des gens qui n'ont pas forcément la compétence technique requise pour un poste peuvent assez rapidement l'apprendre, alors que s'ils ne partagent pas nos valeurs au départ, ils ne les partageront jamais.
Et quand tu fais le recrutement, donc, Bina, comment tu fais pour saisir ces valeurs? Parce que c'est évidemment, on a, mais moi, la famille, c'est important, l'intégrité, c'est important. J'ai toujours trouvé dans ma carrière la difficulté de vraiment saisir l'adéquation de nos valeurs avec les employés. Est-ce qu'il y a des astuces que tu peux apporter là-dedans?
Mon mari et associé Yannick a mis en place un nouveau processus de recrutement depuis un peu plus d'un an que je trouve très bien construit, puisqu'on prend nos valeurs et on met en face des comportements qui sont liés à ces valeurs, qu'on teste auprès des candidats, ce qui nous permet de voir si, au-delà du fait que de dire, bah oui, je partage, je suis d'accord sur cette valeur, parce que effectivement, dans ma vie au quotidien, j'ai eu des attitudes, des comportements qui démontrent que j'ai pleinement cette valeur intégrée chez moi.
Et donc, quand quelqu'un voudrait postuler, ils peuvent aller sur le site et voir ces questions, ou c'est dans une deuxième phase?
Non, c'est dans une deuxième phase. C'est vraiment pendant le processus de recrutement.
D'accord. Alors, donc, dans trajet d'entrepreneur, comment tu expliquerais les challenges? Parce qu'évidemment, il y a le démarrage, création de marque, la croissance, les appels, parce que tu es quelqu'un de célèbre, enfin, plein de gens qui te connaissent. Tu as été beaucoup à la télé, tu as tes livres. Quels sont les plus grands enjeux pour toi aujourd'hui et comment tu fais face à eux?
Je pense que l'enjeu principal, c'est effectivement, par rapport à ce que tu dis, à l'univers des possibles qui est toujours très large, de savoir quels sont les bons combats à mener et de toujours avoir en vue le prochain stream de développement, le prochain grand combat et de focaliser ses efforts dessus. Et par rapport au départ, quand je me suis lancée, bah effectivement, je répondais à beaucoup de sollicitations et je le fais de moins en moins parce que j'essaie vraiment de filtrer en me disant tout ce qui contribue à apporter ma parole est important, intéressant, mais ce qui est juste du « ça me fait plaisir d'y aller » ou « je suis contente qu'on me le demande » n'est pas la bonne raison d'y aller.
Il y a toujours ce problème de choix avec des ressources limitées. Parlons duquel, donc la marque, tu as toutes ces références, et puis je ne peux que souligner le côté fan qu'on est à la maison chez nous, et on fait ce qu'on peut en termes de pub pour vous à Londres, mais vous avez aussi donc votre site et les médias sociaux. Et j'aurais voulu savoir de ta part, combien les médias sociaux, c'est difficile de faire, quelle est la stratégie quand tu as ta présence et ta personnalité propre à toi, qui est essentielle à la marque, et on va dire la marque qui doit être, entre guillemets, institutionnelle. Et comment tu gères ces deux choses?
On essaie de trouver un bon équilibre dans les médias sociaux, effectivement, entre ma personnalité et les combats et la mission qu'on mène. Et aujourd'hui, on a, je pense, beaucoup plus de contenu généré pour expliquer ce qu'on fait et pour montrer la preuve de nos engagements vis-à-vis de nos mangeurs que pour parler de moi. Et je pense que cette idée de preuve d'engagement est très importante, puisque je pense qu'aujourd'hui, les mangeurs sont à la recherche de beaucoup plus de transparence de la part des marques alimentaires. Elles veulent savoir, les gens veulent savoir comment c'est fait, où c'est fait, voilà, quelles sont les choses qu'on pourrait éventuellement leur cacher, où pourrait être le poison caché. Et nous, par rapport à ça, on a vraiment le souci dans le contenu qu'on génère. Et donc, on a fait le choix d'avoir vraiment un studio en interne qui crée tout le contenu, de parler vraiment des coulisses, des producteurs avec lesquels on travaille, des partenariats, de la création des recettes. Et c'est l'essentiel du contenu qu'on trouvera sur les réseaux sociaux de Bindi.
quand on a parlé de faire de la nourriture en France, après, il y a la nourriture sur les médias sociaux. C'est un des deux plus grands sujets sur lesquels on parle. On prend des photos. Donc, vous avez un choix qui est, de ce que je comprends, plutôt Instagram, Twitter et Facebook. Dis-moi si je me trompe. Et sur les trois, où est-ce que ça marche le mieux et pourquoi ?
Alors, aujourd'hui, on focalise, nous, notre effort sur Instagram et Facebook, parce qu'on est une petite équipe et qu'on n'a pas le temps de gérer tous les médias. Et on a, je pense, plutôt des bons résultats depuis quelques mois, puisqu'on a internalisé une équipe, ce qui n'était pas le cas avant, avec cette proposition de pas parler que d'assiettes jolies, bien dressées et hautement instagrammables, hautement foodie, mais de vraiment parler de la production, des producteurs, des ingrédients, de ce qui fait la qualité de la nourriture et aussi beaucoup de notre communauté, c'est-à-dire des distributeurs qu'on voit de plus en plus. On va faire des reportages, par exemple, chez nos distributeurs parisiens pour montrer comment Bindi est vendu chez eux, mais aussi au-delà de ça, quelle est, eux, leur philosophie, pourquoi ils ont finalement ouvert ce magasin. Et donc, ce type de contenu nous permet d'avoir un discours, je trouve, plus large et plus profond que le côté très superficiel de « il y a une superbe assiette, très jolie, mais finalement, est-ce que ce qu'il y a dedans est bon d'un point de vue santé, bon d'un point de vue goût ou bon d'un point de vue environnemental ?» On n'en sait rien.
Alors, la question qui se pose, effectivement, tu as dit, évidemment, limité, on ne peut pas tout faire, vous êtes à taille humaine toujours. Et il faut choisir Instagram, Facebook. Mais ensuite, quand toi, tu postes, donc je présume que tu postes, Bina, parce que tu n'es pas encore au stade, tu as 5 secrétaires et tout le reste. comment est-ce que tu choisis de poster à ton nom par rapport à émettre ou à un sujet, un article intéressant, plein cœur de ton sujet, pour ton site Bindi?
On a deux mécanismes d'émission. On en a un qui sont les postes programmés. Et en général, on fait ce qu'on appelle notre petit comité de rédaction chaque semaine avec notre équipe réseaux sociaux. Et on définit de quoi on va parler. Donc moi, j'insuffle vraiment la ligne éditoriale et les messages. On les construit ensemble. Et donc après, l'équipe s'en occupe. Et moi, je poste très souvent directement quand il s'agit d'un direct, justement, typiquement dans une conférence, un salon, ce qui va se passer dans le salon et qui est raconté dans le flux de Bindi, la plupart du temps, c'est effectivement moi qui le poste.
Et donc, c'est plutôt en live, en fait.
Vraiment.
Et combien, quand vous faites ce travail en équipe, c'est instructif pour toi? Je m'entends, combien est-ce que ça peut t'aider à construire plus qui vous êtes? Ou est-ce que c'est plutôt, oh bon, cette semaine, il faut faire 24 postes, voilà les 4 qu'on va faire? Ou est-ce qu'il y a un côté retour déjà en toi quand tu es en train de discuter à l'équipe ou au bureau?
C'est très instructif sur plein de points, et notamment parce que je pense que moi, je suis assez passionnée et qu'il y a plein de choses qui me paraissent évidentes dans l'univers alimentaire, et je me rends compte en discutant avec l'équipe que non, c'est pas du tout évident et que cette chose-là mérite d'être dite. Donc je pense que le fait de discuter avec des gens qui sont peut-être moins expert du sujet permet justement d'avoir le bon niveau de pédagogie dans ce que l'on raconte. Et par ailleurs, ce que j'aime beaucoup quand je travaille avec mon équipe de rédaction, c'est que eux-mêmes ont des convictions très fortes et des idées très fortes qu'ils apportent, et notamment sur les aspects écologiques. Ils sont très exigeants et ils vont nous obliger à être très explicites, très transparents sur des points qui, moi, m'auraient peut-être paru moins importants à expliciter. Donc, il y a une vraie discussion qui se fait dans ce comité de rédaction, et ce qui en ressort, ce n'est pas du tout ce que j'aurais fait toute seule.
Et donc, du coup, parfois, tu te fais tailler les oreilles.
Complètement.
Je trouve que c'est une très bonne chose. Et pour garder cette culture, quand vous êtes en train de grandir, vous avez quand même une grande équipe, de pouvoir garder l'oreille ouverte. Et c'est toujours compliqué, en fait, d'avoir cette ligne directrice et avoir cette vision à maintenir, mais toujours avoir la flexibilité d'écouter. Comment tu gères ?
Moi, je pense que je suis quelqu'un d'assez intuitif. Et donc, souvent, j'ai des ressentis, des signaux faibles par rapport à ce qu'on fait et qui me font réfléchir et qui me font souvent évoluer, notre stratégie ou nos produits à venir. Je vois en écoutant, j'aime beaucoup parler avec les gens et notamment parler avec les mangeurs. Et souvent, les gens me parlent de problèmes, de questions qui se posent en mangeant que j'aurais pas forcément imaginé. J'essaie de me dire, tiens, qu'est-ce que ça veut dire pour Bindi ? Comment je pourrais changer ça ? Et c'est une source d'inspiration pour moi.
Par rapport à tes choix, donc vous avez fait Instagram, Facebook, Twitter au moins, je comprends qu'il est un peu écarté. Et est-ce que le sujet de le fameux ROI de médias sociaux est un sujet pour toi ? Et si oui ou sinon, comment tu le gères ?
On ne se pose pas la question en termes de ROI, puisqu'on considère que les réseaux sociaux font partie d'un tout qui nous permet de construire une relation directe avec nos mangeurs. Et moi, je considère que la relation directe avec nos mangeurs a une valeur infinie. Et donc, les réseaux sociaux font partie de toute une plateforme dans lequel il y a plein d'autres choses. On fait des événements, on rencontre les gens dans des salons. Et finalement, c'est tous ces moments d'interaction entre Bindi et ses mangeurs qui construisent la relation. Et pour moi, c'est quelque chose d'essentiel. Et donc, je ne me pose pas du tout la question. Évidemment, on pilote des KPIs et on regarde chaque semaine quels sont les taux d'engagement, de likes, de posts, etc. Mais on n'est jamais dans une logique court-termiste de se dire on veut absolument avoir tant d'engagement, tant d'implication sur trois postes, mais on est vraiment dans une logique de construction long terme de la relation.
Ça me fait penser à deux personnes avec lesquelles j'ai posé cette même question, et une a dit dès que tu peux me dire combien il y a un retour sur investissement ROI pour la relation avec ma mère, je serais prêt à répondre à ta question. La deuxième était un patron qui a dit « j'ai pas le temps d'écouter, faire les réseaux sociaux, c'est un truc pour les autres ». Ah oui, d'accord. Donc vous avez pas le temps d'écouter vos clients, je comprends. Donc j'apprécie beaucoup ta réponse. Bina, pour terminer, on est en automne 2019, quels sont les plus grands enjeux pour toi et qu'est-ce que porte l'avenir pour Bindi ?
Les grands enjeux pour moi, c'est vraiment l'évolution qu'on est en train de mener pour proposer, passer du prêt à cuisiner au prêt à manger, où on a ouvert un premier bar dans lequel on peut venir chercher son déjeuner. Et c'est l'idée de se dire comment on peut de plus en plus servir ce besoin croissant d'avoir du prêt à manger, où on n'a pas besoin de cuisiner derrière. Et donc, c'est le grand projet qui nous occupe pour les prochains mois.
Donc, juste pour que je comprenne, je pars dans ce magasin et je peux cuisiner. Enfin, tout est déjà cuisiné, préparé dans une assiette totale, ou c'est encore une espèce de... Je peux mélanger ce que je veux et je peux sortir et voilà, bing, je peux le manger direct.
Alors, tu peux, en effet, c'est du prêt-à-manger, tu peux le manger direct, mais ce qu'on propose, c'est à chacun de composer l'assiette à son goût. Et donc, on propose évidemment des assiettes pré-composées pour ceux qui sont pressés, mais surtout, tu peux venir au bar et composer avec... Il y a toujours 3-4 petits plats différents qui sont faits pour être assemblés ensemble. Et toi, Minter, tu peux choisir aujourd'hui que tu voudrais le plat A et le plat B pour ton déjeuner et avoir exactement ce dont tu as envie dans la quantité dont tu as envie.
Donc, je comprends que ça, c'est quelque chose à construire avec un partenaire. Et comment est-ce que ça se compile ? Parce que c'est une place plus grande, j'imagine, que juste mettre une boîte sur un rayon.
Complètement, oui. C'est vraiment un concept de corner hein, qui fait aujourd'hui une dizaine de mètres carrés et qui prend du coup de l'espace dans le magasin.
Donc ça, c'est pour l'avenir quelque chose sur lequel vous misez, vous espérez que ça va grandir.
Exactement.
Super. Bobina, comment est-ce que les écouteurs pourraient aller regarder un peu mieux? Et je conseille personnellement de procurer quelques-uns de tes fameux boîtes.
Merci. On peut venir regarder le site de la marque dans lequel il y a à la fois notre boutique de vente en ligne, mais il y a aussi un contenu très riche autour d'une alimentation bonne, gourmande, bonne pour la santé, bonne pour la planète.
Et sinon, c'est disponible dans des magasins. Tu peux nous donner quelques indices de comment on peut le trouver autrement, sinon, si on veut aller se mettre des pieds sur le trottoir et l'acheter.
Nos produits sont distribués sous la marque Bindi dans les magasins bio. Donc, on peut les trouver dans la plupart des magasins bio français. On est extrêmement bien distribués et on les trouve sous la marque Anaya dans la grande distribution.
Ben, formidable. Formidable, Bina. Merci beaucoup et je te souhaite plein de bons succès pour l'avenir. Donc, je dis à nouveau, allez sur Bindi, B-E-E-N-D-H-I.
D-I.
Pardon, B-E-E-N-D-I.com pour aller vous instruire et consommer librement. Merci beaucoup, Bina.
Merci, Minter.
Merci de nous avoir écoutés sur Minter Dialogue en français. Vous trouverez tous les liens et références cités lors de cet entretien sur mon site minterdial.fr. Pour vous inspirer, je vous laisse avec une chanson que j'ai écrite dans ma jeunesse, A Convinced Man.
Hello, this is Gary Chahot welcoming you to check out the French History Podcast. Our main show covers the history of France from the first humans until present. If you liked Mike Duncan's The History of Rome and wanted a similar program covering the land of beauty, culture, and love, we are exactly that. We also host world-renowned scholars who have delivered guest episodes on their specialties, including 18th century pirates, revolutionary booksellers in 20th century Paris, the special friendship between the Marquis de Lafayette and Thomas Jefferson, and numerous others. Learn what you love and listen to the French History Podcast today.